France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 12 France.
Je demande à la gauche de vouloir la France en entier et pas à moitié. Je demande à la gauche de conjuguer la France des tours et la France des bourgs. Je demande à la gauche de conjuguer la France des quartiers et la France des clochers. Je demande à la gauche de n'abandonner personne. Je veux ma France en entier et pas à moitié.
Comment penser la France en entier et pas à moitié, demande François Ruffin ici en meeting à Flixecourt près d'Amiens, il y a déjà plusieurs mois. Il faudrait donc sortir la gauche de ses vieilles habitudes, selon le député ex-insoumis, subdiviser l'électorat en communautés, alimenter une forme de clientélisme qui abaisserait le politique à sa matrice la plus délétère, la conquête et les parts de marché. Dont acte à l'horizon d'échéances électorales majeures, proposer un nouveau chemin qui replace le commun au centre est sans doute bienvenu, mais qui l'entend encore ? Depuis, à l'image de la France périphérique, ces slogans ont largement dépassé l'espace de la gauche et contaminé le débat public. La France des tours et des bourgs, des quartiers et des clochers. Pour certains, il faudrait réconcilier ces espaces qui vivraient en parallèle, sans jamais se croiser. Pour d'autres, c'est une concurrence frontale, voire une substitution qu'on dessine. Il faudrait ainsi abandonner la vieille France au profit d'une nouvelle, chez LFI, ou favoriser la vraie France à l'autre bout du spectre politique, au RN. Quelle est cette France qu'on nous dépeint à grand renfort de polémiques, de saillies et répliques vengeresses des réseaux sociaux aux scènes de meetings, de petites phrases aux interviews politiques? Derrière le sentiment suranné de cartes postales d'antan, comment lire ces oppositions factices quand il y a des tours dans les bourgs et des clochers dans les quartiers? Ou quand les quartiers politiques de la ville sont à la fois en zone urbaine et rurale? De Corbeil-Essonnes à Lodève dans l'Hérault, de Pamiers dans l'Ariège, au Petit Bar à Montpellier. Au sommaire de 12 France, faut-il en finir avec la France des tours et des bourgs? Venez, je vous emmène. Bonsoir Max Rousseau.
Bonsoir Laura.
Vous êtes géographe, politiste, professeur d'études urbaines à l'école de management durable des territoires, c'est à Vaux-en-Velin. Vous avez signé Déclin urbain avec Vincent Béal et Nicolas Cauchy-Duval aux éditions du Croquant. Et en novembre 2024, vous avez copiloté un numéro de l'excellente revue Mouvement, politique des territoires délaissés. On va en parler, bienvenue. Achraf Manar, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondateur du mouvement Destin lié, vous êtes militant, acteur culturel. Achraf, vous avez entendu cette phrase de Ruffin qui a fait beaucoup parler, la France des tours et des bourgs. C'est ce slogan, cette phrase dont on a discuté ensemble, Achraf, il y a déjà quelques semaines, qui nous conduit ce soir à proposer cette émission à nos auditeurices. Pourquoi est-ce que ça vous irrite ?
Alors bonsoir, donc Achraf, moi je suis né en quartier populaire à la cité Grand Parc à Bordeaux et j'ai grandi en zone rurale dans un ancien bassin minier en Haute-Loire.
Donc vous êtes des tours et des bourgs.
Alors on pourrait dire que je suis des tours et des bourgs, mais c'est justement ce qui me gêne. On a l'impression avec cette formule qu'on sépare deux groupes sociaux qui ont tout d'opposé et... Ce cadrage, il rentre dans le cadrage de l'extrême droite en réalité, parce que lorsque François Ruffin dit la France des clochers et la France des quartiers, moi ce que j'entends c'est la France des mosquées et la France des clochers en réalité. Et ça rentre dans le cadrage de l'extrême droite parce que l'extrême droite, elle se faufile sur une séparation spatiale, donc des années, des décennies de ghettoisation des populations immigrées dans les quartiers populaires et des populations blanches qui sont restées pauvres dans les territoires ruraux en déclin, ce dont on parle et ce dont parle Benoît Coquart. Et justement, le fait de rentrer dans ce cadrage, ça oppose deux groupes sociaux qui en fait se côtoient, vous l'avez très bien dit dans votre introduction. Donc, le fait de rentrer dans ce cadrage-là, ça continue de nous opposer. Ça ressemble un peu à la France périphérique de Christophe Guy, justement, qui a été popularisé, qui a été très fort dans les années 80, etc. Et ça nous empêche, d'une certaine manière, de nous unir pour de vrai, parce qu'on a deux groupes sociaux qui sont complètement opposés.
Est-ce que véritablement ces groupes sociaux sont si... ont tellement en commun ?
Alors, elles ont beaucoup en commun, oui. Déjà, par exemple, sur la question sociale, moi, ce que j'ai vu comme point commun en quartier populaire et en milieu rural, c'est des fractures sociales très grandes. Sur l'éducation, par exemple, j'ai vu des jeunes de quartier populaire être empêchés socialement, être désorientés en termes d'éducation, etc., ne pas pouvoir accéder aux études supérieures, être cantonnés dans leur bassin d'emploi. J'ai vu exactement la même chose en milieu rural. C'est-à-dire qu'on est bloqué en milieu rural à ce qu'il se passe dans un rayon de 10 km, au bassin d'emploi de 10 km, et donc forcément à être orienté en bac professionnel, par défaut notamment, etc. C'est le cas sur la question de la mobilité. Quand on est en Ile-de-France, en dehors du périphérique, ben c'est une fracture qui est juste extraordinaire. Et de la même façon, lorsqu'on est en zone rurale et qu'on est jeune et qu'on n'a pas de scooter, par exemple, on n'est absolument pas libre du tout. Donc ces jeunesses-là, elles ont beaucoup, beaucoup de points en commun de ce point de vue-là, et y compris sur la pauvreté, sur les métiers, par exemple, précaires, sur toutes ces questions-là, et sur le mépris démocratique, le fait de ne pas du tout avoir accès aux espaces de pouvoir, c'est quelque chose aussi qui lie ces territoires-là. Donc il y a énormément de points communs, mais l'extrême droite vient séparer sur la question raciale et François Ruffin, c'est ça qu'il n'intègre pas du tout. Mmh. Il fait fi de cette, justement, de ce poids politique, cette hégémonie culturelle de l'extrême droite sur la question du racisme, en pensant que c'est juste la question matérielle du travail qui va mettre ensemble ces groupes sociaux.
Mais ça, on va y revenir. Mais Max Rousseau, finalement, ses tours et ses bourgs, c'est une histoire de relégation et d'assignation, quoi. Qu'est-ce que vous pensez-vous de ce slogan ?
Qu'est-ce que je pense de ce slogan ? J'en pense qu'il a le mérite de mettre le doigt sur les inégalités territoriales dans un pays comme la France. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est indéniable que depuis les années 80, grosso modo, ces inégalités territoriales, elles ont tendance à remonter après à peu près un siècle de nivellement de ces inégalités territoriales. Et on sait que les inégalités territoriales, et notamment les territoires qui vont perdre dans le grand jeu de la globalisation, etc., vont avoir tendance à manifester leur mécontentement en votant plutôt, soit en refusant de voter, en pratiquant l'abstention, et c'est un vrai problème désormais pour la démocratie française, soit plutôt en votant pour des partis anti-système, et on voit bien que c'est le cas actuellement. Donc ça, c'est clairement des réponses à la relégation. Pour le reste, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit par mon collègue Achraf sur les dynamiques assez similaires de les expériences de relégation, aussi bien dans les grandes métropoles que dans les territoires ruraux, les difficultés d'accès à l'emploi qui sont liées à une pénurie dans les territoires ruraux en déclin, qui sont plutôt liées à la discrimination dans les territoires de banlieue, mais qui reviennent finalement au même, c'est-à-dire des difficultés d'accès dans de cas plus le recul des services publics, mais aussi des services privés. Je pense au recul, par exemple, des services bancaires, même des distributeurs de banques dans les petits villages. C'est une catastrophe quand on ne peut plus.
Est-ce qu'on a aussi, effectivement, en quartier populaire, ce recul des services ? Alors, on est quand même dans un clivage politique qui est largement mis en scène, à tout le moins. Donc, opposé deux France, une vieille habitude qui alimente les débats publics et politiques, plateaux de radio et télé, réseaux sociaux et meetings. Florilège par Camille Mathy.
Alors, les bourgs et les tours, c'est une image, c'est pas une réalité scientifique. Sachant qu'il existe des bourgs qui possèdent des tours et que les quartiers populaires, ce qu'on appelle les périphéries ou encore les zones rurales, ça reste des concepts vagues et pas des espaces monolithiques à proprement dit, comme d'ailleurs le démontre le résultat des dernières élections.
Moi je veux tout faire pour nous rassembler et surtout rassembler la France. Et donc, qu'elles soient des campagnes ou des grandes villes, des banlieues ou des villages, il nous faut parler à tous les Français.
L'honnêteté m'oblige à vous dire que nous avons depuis 30 ans maintenant dans notre pays des verser 90 milliards d'euros dans les banlieues au titre de la politique de la ville.
Je voudrais dire qu'ils sont gorgés, je dis bien gorgés, d'allocations sociales.
Et qu'on arrête de nous opposer en fonction de notre couleur de peau, de notre religion, de notre classe sociale, qu'on ait un pavillon ou un appartement, qu'on soit jeune ou vieux, homme ou femme. Tout est fait pour nous diviser et ça arrange la classe des riches et les plus puissants.
Et que dans les campagnes les plus reculées de notre pays, dans le fin fond du Cantal ou de la Creuse, là-bas, il n'y a pas de service public. Là-bas, les médecins partent les uns après les autres. Là-bas, il n'y a pas de bureau de poste. Là-bas, les casernes de gendarmerie ferment. Là-bas, on ferme des écoles, on ferme des gars et on ne brûle pas des voitures
et on ne tire pas
au cocktail Molotov sur les forces de l'ordre pour exprimer une colère.
La réalité, c'est qu'il y a une nouvelle France et que cette nouvelle France, c'est la nôtre. La ruralité qu'on nous jette à la figure n'existe pas. Elle n'est plus peuplée de paysans comme autrefois. La nouvelle ruralité n'est pas non plus composée de ce rêve fou de Français de souche qui seraient là, restés comme sur une île. Ce n'est pas vrai. Cessez donc d'imaginer une France du passé qui n'est plus là. Acceptez celle qui est là et dites-vous bien, comme je le dis à chacun des jeunes gens que je croise et dont je sais qu'ils sont nés comme moi au Maghreb ou bien encore ailleurs, cette partie du pays est à nous, c'est notre patrie, c'est notre pays, c'est là que naîtront vos enfants, c'est là que naîtront vos petits-enfants. Ce pays est à nous tous. Voilà pourquoi je parle de la nouvelle France.
Super fort. Oui.
Vous étiez en train de dire que quand même, il y avait un orateur. On vous aurait reconnu Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon à la fin, Fabien Roussel et Éric Zemmour, entre autres. On a entendu cette nouvelle France, cette vieille France, cette vraie France qui ne brûle pas de voitures pour faire émerger sa colère. Ça veut dire quoi tout ça, Max Rousseau ? C'est nouveau, ces termes ?
Pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours utilisé le recours au territoire pour coder en fait des choses qui sont pas dissibles, comme par exemple des opinions racistes en l'occurrence. Donc parler c'est ce qui était dit tout à l'heure, hein, parler de banlieue, de cité, etc. C'est en fait une manière codée de parler de type de population indésirable. Et ça remonte déjà au 19e siècle en fait, où il y avait déjà une vision urbaphobe, hein, celle des classes dangereuses, hein, des paysans déracinés qui allaient s'agglutiner dans les faubourgs parisiens, qui faisaient peur aux bourgeois, et cette vision-là a propulsé la première matrice en fait de l'extrême droite moderne, avec des mouvements comme l'Action française, qui ont commencé avec des auteurs comme Maurras, à regretter la disparition de la France traditionnelle, la France des terroirs, la France de la famille, qui se dissoudrait dans les mœurs dissolues, l'adultère, le divorce, et également les populations étrangères, des villes. Ouais, tout à fait, bien sûr. Il y a une urbaphobie très forte qui commence à se développer à la fin du 19e siècle et qui culminera avec Paris, le désert français, de Jean-François Gravier, le régime de Vichy.
En 1947.
Etc. Voilà.
Mm-hmm. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, Achraf Manar, d'entendre Nouvelle France, Vieille France, Vraie France ? Il y a quoi ? C'est une dimension d'instrumentalisation qui vous gêne, j'imagine. Vous êtes un objet politique, quoi.
Totalement.
Des gens comme vous.
Et ça a été aussi inscrit dans le temps long. Tu prenais un exemple sur l'urbaphobie, on va dire. Mais typiquement, sur la question des personnes racisées, des personnes non blanches, ça dépasse y compris la division ville et campagne. Typiquement, si je prends... ça remonte même au mécanisme, notamment de la colonisation, d'essayer de créer, par exemple, des espaces civils et des espaces sauvages, typiquement. C'est ce qui se réplique avec les quartiers populaires, par exemple. Et donc, avec les territoires colonisés, on va essayer de construire des espaces sauvages, donc des espaces qui repoussent, violents, de barbares, etc. Et forcément, avec les dynamiques de décolonisation, et puis maintenant, l'ère post-coloniale dans laquelle on est, c'est un peu ce qui se réplique dans les quartiers populaires. Donc, associer justement des populations racisées à des populations barbares qui sont violentes, qui brûlent des voitures, on l'a entendu dans le magnéto. Et donc forcément, ça remonte à longtemps. La première date pour les personnes qui réfléchissent dans le cadre décolonial serait 1492, mais ça a été le cas notamment...
Avec la découverte de l'Amérique.
Exactement, et donc des espaces civilisés versus des espaces non civilisés, barbares, indigènes, violents...
Achraf, ces fractures, donc on l'entend, elles sont pas nouvelles, mais ce qui est nouveau, c'est peut-être cette lecture identitaire des territoires. Vous le disiez, Max Rousseau, tout à l'heure, finalement, c'était les paysans qui arrivaient à Paris, qui étaient ce qu'on a appelé le zonard, les habitants en fait des faubourgs,
les apaches,
etc. Aujourd'hui, on est quand même sur une lecture qui est beaucoup plus identitaire sur des citoyens qui seraient susceptibles d'être acceptés, je sais même pas comment le dire, et ceux qui seraient des corps étrangers, des barbares, ça c'est nouveau.
Oui, alors c'est relativement nouveau, en fait, pas tant que ça, en fait, c'est une vision qui commence à monter, qui remonte à mon avis aux années 80, aux premières émeutes dans la banlieue de Lyon et de Paris, et qui ont été rapidement instrumentalisées effectivement par l'extrême droite et la droite, et toute la presse qui peut graviter autour de ce type d'idées. Après, ce que je veux dire aussi, c'est que la France est loin d'être isolée, et ces manières d'utiliser le détour territorial pour coder des manières racialisées, hein, d'envisager les mutations sociales, elles ont sans doute commencé une vingtaine d'années auparavant aux États-Unis, au moment de la campagne de Nixon, par exemple, ou dans les années 70, où il y a eu tout un tas de vocables qui ont permis de ne pas qualifier directement les populations indésirables. Par exemple, on parlait des inner cities pour parler en fait des quartiers afro-américains. Hein. Et c'est une manière de désigner les quartiers qui posent problème, mais sans être accusé. Voilà, tout à fait. Donc ça a été très.
Ce qui est du même ordre du coup quand on parle de quartier populaire ou de banlieue.
Tout à fait.
Et parce qu'il n'y a pas qu'une banlieue. C'est pas vous le géographe que je vais le dire. Voilà, entre les banlieues pavillonnaires, le périurbain, les grands ensembles et les grands ensembles, on le rappelle, c'est environ quoi 30% des quartiers HLM hein, par ailleurs. C'est-à-dire que on a codé ces représentations de telle sorte qu'on sait de qui on parle.
Voilà, tout à fait. On utilise des représentations binaires. On cadre le problème d'une certaine manière et c'est une manière, effectivement, déjà de proposer des solutions avant même qu'il y ait un débat avec ce type de cadrage. Et c'est ce type de cadrage qu'il faut justement absolument contrer. Hein. Il faut refuser ces visions binaires.
Sauf que ces visions binaires, comme vous le dites, je reprends votre terme, elles ont aussi été validées politiquement. On se souvient de cette note de Terra Nova en 2011 qui a fait beaucoup de bruit. Où, au vu des transformations en fait du champ politique et de l'électorat, cette note disait finalement qu'il fallait faire un focus sur. Enfin, il parlait d'une forme de rétrécissement démographique de la classe ouvrière et que pour ouvrir justement le nouveau territoire à aller travailler, ce serait plutôt une nouvelle coalition pour la gauche qui comprendrait les diplômés, les jeunes, les minorités, les quartiers populaires, les femmes, une forme de nouvelle gauche de demain, plus jeune, plus féminine, plus diverse, plus diplômée, mais plus urbaine aussi. Ashraf Manar, en fait, c'est aussi ça l'enjeu, c'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui, 15 ans plus tard, même si cette note n'a pas été endossée par le Parti Socialiste, à se retrouver avec finalement ce type de clivage qui fracture le champ politique.
Totalement, c'est là qu'on voit les limites de l'électoralisme, c'est-à-dire que le champ électoral pousse à construire des stratégies de marché, on va dire, et ça, ce n'est pas compatible avec la vie en commun, la vie en démocratie, le vivre ensemble, etc. Typiquement, je te rejoins complètement sur notamment le fait que le cas français n'est pas isolé. Je pense à un auteur qui s'appelle Charles Mills, qui a écrit un ouvrage qui est juste extraordinaire, qui s'appelle Le Contrat Racial, et il explique très bien...
Qui a été traduit il y a environ 2 ans, après 25 ans.
Exactement, donc quelque chose qui n'existait pas du tout dans le champ français, donc qui limitait une partie de notre analyse. Et ce que montre très bien ce livre, c'est à quel point on nous vend un contrat social qui est rompu d'une certaine manière, c'est-à-dire le fait d'être à proximité des villes, ça permettrait d'avoir une certaine place dans le monde économique, une certaine stabilité. On voit bien que c'est pas du tout le cas, notamment pour les quartiers populaires. Et lorsqu'on est dans les territoires dits ruraux, le fait d'être éloigné des réseaux des villes permettrait d'être dans un certain bien-être et un cadre de vie qui serait meilleur qu'en ville, justement. Et on voit bien que cette promesse non plus n'est pas tenue. Et donc, ce que montre ce livre et ce qui est extraordinaire, c'est à quel point le contrat racial en soi, c'est celui qui sous-tend vraiment le contrat social, et que donc cette question du racisme...
Pour être clair, en fait, pour nos auditeurs, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, et donc ça a apparu chez Mémoire d'Encrier, hein, cette traduction, ce qu'il dit, en fait, Charles Mills, c'est que on ne peut pas penser le contrat social en dehors d'un contrat racial, et que cette question raciale, la couleur, notamment l'appartenance communautaire, conduit à ne pas avoir, en fait, les mêmes droits en termes de contrat social, Exactement. Et ça crée des hiérarchies intrinsèques à nos sociétés, et ça, faut le penser. Et ça, par exemple, ça, vous l'avez vécu, vous l'avez expérimenté, vous l'avez vu ?
Totalement. Ce qu'il explique aussi, c'est que du coup, forcément, ça racialise l'espace. Donc typiquement, lorsqu'on est dans la séparation quartier populaire, milieu ruraux, on est exactement là-dedans, dans ce que décrit Charles Mills. Donc le fait de parquer dans des ghettos des personnes issues de l'immigration. Et du coup, on fige dans l'imaginaire collectif le fait que ces populations-là habitent dans ces quartiers. Et donc moi, très concrètement, ce que j'ai vécu lorsque je suis sorti de ma cité, que je suis allé en territoire rural, c'est un espace dans lequel la question raciale n'était pas du tout pensée, et donc le racisme était banalisé. C'est juste une preuve sociale, c'est quasi cool d'être raciste dans ces espaces-là. Ce n'est
plus
grave.
Vous l'avez subi ?
Totalement. Je suis le grand frère d'une fratrie de 3. C'était une question taboue. Mon père l'a subi lorsqu'il travaillait. Ma mère également, parce qu'elle a travaillé en femme de ménage dans ces territoires-là. Et ma fratrie aussi, dans tous les champs de la vie sociale en milieu rural. Et donc, que ce soit à l'école, au club de foot, etc., c'est des espaces qui sont racialisés et qui intègrent complètement la question du racisme. comme une preuve sociale, en fait. Donc, ce n'est pas du tout pensé par les habitants de milieux ruraux, notamment parce que l'hégémonie culturelle a conduit à ça et a façonné, aussi avec les médias qui ont leur part de responsabilité, cette partie barbare dans les quartiers populaires, donc brûler des voitures, les émeutes, etc., etc.
Mais Max Rousseau, ça veut dire que si ce narratif, comme semble nous l'expliquer Ashraf, en fait, fonctionne, c'est que, bah, en fait, en termes de clientèle électorale, c'est aussi parce que ça répond peut-être à une demande, à un besoin de récit, à trouver aussi des fonctions spécifiques à tel et tel problème. Voilà comment on va les régler. Enfin, c'est un peu.
Alors, je pense qu'on peut répondre peut-être en utilisant justement un regard de géographe, en regardant aux différentes échelles. Si on regarde à l'échelle nationale, la question du racisme, si on suit par exemple les travaux récents de Vincent Tibéri en sciences politiques, a plutôt tendance à reculer sous l'effet du renouvellement générationnel, etc., etc. Par contre, effectivement, dans certains territoires, faut bien comprendre, les territoires ruraux dont parle, étudiés par Coquart, par exemple, c'est des territoires industriels, en fait. Donc, c'est des populations qui ont subi depuis maintenant 4 décennies la désindustrialisation, la globalisation, les pertes d'emplois, etc., etc. Alors que les territoires de banlieue, c'est plutôt des territoires où l'économie, où les gens vont travailler dans les services, typiquement la restauration, la sécurité, etc., etc. Donc, c'est pas les mêmes problématiques économiques. Ce qui explique que le rapport à la globalisation soit pas le même et que du coup, ben, vous ayez des attentes politiques qui ne soient pas tout à fait les mêmes. Donc oui, dans ce type de territoire, vous avez également, il faut bien comprendre que dans ces territoires ruraux en voie de désindustrialisation, vous aviez des formes de régulation collective par le syndicalisme, par le paternalisme qui vous fournissait des services tout au long de votre vie, parfois par des formes de clientélisme politique, vous pouviez acquérir un logement social ou des choses comme ça. Tout ça a disparu sous l'effet de la désindustrialisation, de l'austérité, etc. Donc les gens se retrouvent livrés à eux-mêmes et vous avez des formes de hiérarchie qui se reconstituent. Où effectivement, comme le disait Ashraf, être cool, ça peut être, enfin, être raciste peut être cool, ou être raciste peut permettre de se légitimer dans les nouvelles petites régulations micro-locales qui commencent à survenir après la désindustrialisation. Mmh. Voilà.
Mais vous parlez justement dans la revue Mouvement de territoires délaissés et oui. Vous croisez justement ces espaces. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont en commun de manière c'est l'abandon des services publics, c'est ces relégations, c'est donc la fracture spécifique, c'est cette question raciale selon vous?
Il y a plusieurs fractures en fait, et donc ça, c'est donc nous dans le livre en fait, enfin dans cette revue, on croise plutôt des analyses qualitatives, mais il y a également des analyses quantitatives, notamment faites par Julia Cagé et Thomas Piketty dans leur dernier livre, hein, Une histoire du conflit politique, où ils objectivent clairement cette remontée des inégalités territoriales. Donc on peut la mesurer par différents indicateurs, par exemple le PIB par habitant. Vous pouvez le mesurer au niveau des départements, et clairement il y a une remontée de ces inégalités. Vous pouvez le mesurer par exemple par les prix de l'immobilier qui montrent des différentiels d'attractivité. Par exemple à Saint-Étienne, on est à moins de 1 000 € le mètre carré. C'est une ville industrielle en déclin. À Paris, on est à plus de 10 000. L'écart se creuse constamment, en fait. Vous pouvez le mesurer par les revenus des habitants. C'est assez facile aussi à objectiver. Mmh. Donc, vous voyez, à Roubaix, on doit être à 8 000, 9 000 par habitant par an, contre à Neuilly, je ne sais pas, 100 000, peut-être même plus aujourd'hui.
Mais par exemple, si on prend ces territoires délaissés, est-ce que ces études existent entre, comme on entendait Jordan Bardella dire, ils ont été gavés d'argent public, la politique de la ville a avalé des milliards, des dizaines de milliards d'euros sans que ça ne change rien. Ça, cette objectivation de ce qu'on donne aux villes, on donne aux quartiers populaires, et de l'autre côté, ce qu'on donne aux ruralités en termes de politique publique, est-ce que ça, on l'objective ou pas?
C'est assez difficile, en fait, parce qu'il y a déjà énormément de programmes. Il est très difficile de les territorialiser, donc il y a des travaux qui essaient d'aller vers ça, mais c'est quand même pas évident. Par contre, ce qui est certain, c'est que dans l'ensemble, les politiques publiques en France, mais comme dans tous les pays européens depuis une quarantaine d'années, vont plutôt vers des formes de métropolisation, ce qui est différent des banlieues. Et je pense que Bardella confond un peu tout. Par exemple, si on prend le budget du Grand Paris Express, c'est peut-être 50 milliards. Oui, donc si vous prenez le Petite Ville de Demain ou ce genre de programme, vous êtes sur il y a peut-être 5 milliards qui sont distribués sur 200 villes contre là 50 milliards juste pour Paris. Et les Jeux Olympiques, c'est encore la même chose. Et ça concerne pas la banlieue. Donc on est plutôt sur des dynamiques très fortes de métropolisation, de renforcement d'un rayonnement métropolitain. Mais c'est pas du tout, faut garder la raison. Donc c'est pas du tout les banlieues qui sont les premières bénéficiaires de ça.
Mais justement, Ashraf, sur cette question de politique publique, parce que les banlieues, on voit bien, il y a eu un conseil interministériel des villes qui s'est tenu aujourd'hui justement à Montpellier. Cette question en fait de l'affaiblissement réel de la politique de la ville sur le mandat d'Emmanuel Macron, elle a été aussi légitimée par le fait que fallait rééquilibrer avec la ruralité. Ça, comment est-ce que vous le lisez?
sur cette question de « on a déversé des milliards typiquement dans les quartiers », il y a aussi un point que je vais ajouter là-dessus, c'est que, y compris les habitants de quartiers populaires, ne sont pas satisfaits de la façon dont l'argent public est investi dans ces quartiers. Typiquement, les milliards qu'on dit être déversés ont beaucoup servi à détruire des habitats d'habitants de quartiers populaires sans leur consentement, sans
qu'ils soient... Via la rénovation urbaine.
Exactement, sans qu'ils soient associés au processus de décision, sans que leur dignité soit prise en compte, sans qu'on puisse leur offrir des cadres de relogement qui soient dignes.
Ça, c'est l'ANRU qui a effectivement 20 ans et qui a conduit à la transformation de beaucoup de quartiers et à des destructions. Mais la politique de la ville, elle a aussi permis de financer des associations.
Totalement. Mais en termes de proportion, en tout cas, je trouve qu'il y a un sujet là-dessus, c'est-à-dire que beaucoup d'argent a été investi dans des infrastructures pas portées par les habitants eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu poindre beaucoup de collectifs de lutte contre les destructions de bâtiments. Vous citiez, par exemple, le Petit Bar à Montpellier, c'est un très bon exemple. S'ériger aussi contre cette idée de « on a déversé des milliards dans ces quartiers-là et donc on a laissé de côté les habitants de milieux ruraux », je pense que c'est important. Et typiquement, le fait d'opposer toujours ces habitants en milieux ruraux et en quartiers populaires, c'est un jeu à somme nulle parce que une fois on dit qu'on investit dans les quartiers populaires, et puis lorsque ce n'est plus rentable politiquement et que d'un côté ce sont les milieux ruraux qui deviennent rentables politiquement, on l'a vu sous Emmanuel Macron, disparition du ministère politique de la ville et apparition d'un ministère délégué sur les questions de ruralité.
Ça c'était sous le gouvernement Barnier, depuis il est revenu puisque c'est Juliette Méadel qui est effectivement ministre. Max Rousseau. Sur cette question peut-être de l'abandon, enfin l'abandon, c'est pas un abandon, mais de l'affaiblissement de la politique de la ville versus, c'était aussi un signal d'une forme de mise en concurrence en termes de politique publique.
Bien sûr, je pense que c'est une résultante de la montée de l'extrême droite, ça paraît assez clair, dont l'électorat n'est pas du tout le même. Là encore, peut-être que le détour avec les États-Unis peut être intéressant, où là on a eu vraiment un abandon complet des quartiers afro-américains à partir des années 2000 dans des villes comme Détroit, Cleveland, etc. Où là, en fait, c'est la résultante d'une recomposition tout simplement du champ politique américain avec une nouvelle coalition. Vous parliez tout à l'heure de la note de Terra Nova, hein, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Là, on avait une nouvelle coalition entre des électeurs libéraux ou néolibéraux, plutôt du centre-droit, et des électeurs ouvertement racistes. Ça répondait à une recomposition du Parti républicain dont on a vu les conséquences d'ailleurs récemment. Et cette nouvelle coalition, ce rapprochement entre des électeurs de sensibilités différentes, de différentes parties de la droite, s'est sédimenté autour de la question de l'abandon des subventions aux quartiers afro-américains, ce qui s'est traduit par une baisse de l'espérance de vie massive. Dans certains quartiers, on a fait une petite enquête à Cleveland, où dans certains quartiers, l'espérance de vie est de moins de 60 ans, désormais, avec un recul absolu, là, pour le coup, des services publics de santé, d'éducation, etc.
Vous écoutez Douce France, par Nora Hammadi, sur France Culture.
Direction Montpellier, quartier de la Paillade cette fois. Depuis des années, Nourdine Barra, habitant, militant et écrivain, propose des rencontres, des lectures, des discussions, des événements dans l'espace public sur son quartier. Fin mai, c'est une rencontre un peu spéciale qu'il a convoquée, des habitants, des campagnes et de son quartier de la Paillade. Reportage Maïssa Issa.
On va discuter, on va écouter à chaque fois ceux qui prennent la parole, d'accord ? Vous allez prendre la parole aussi. Alors l'idée, c'est que on a voulu réunir des habitants du rural, des campagnes, des villages, à venir échanger et partager des récits de vie très ordinaires avec des habitants des quartiers populaires. Voilà, on est très loin les uns des autres, très éloignés géographiquement, culturellement, à mon sens, beaucoup moins, et c'est ce qu'on va vérifier. Les tours de parole vont se suivre, et chacun va nous raconter, nous amener un éclairage de l'endroit où il vit, de la position qu'il occupe dans cet endroit où il vit, et avec l'idée et l'espoir qu'on sortira tous meilleurs connaisseurs de la vie de l'autre.
Comment tu t'appelles ?
Monique.
Est-ce que tu peux te présenter un peu plus ?
Comme toi, par exemple ?
Bon, Monique, je suis dans plusieurs associations. J'habite à Montpellier depuis bientôt 25 ans. En juillet, ça fera 25 ans. Et je viens assez régulièrement aux agoras de Nourdine. J'ai commencé avec ces dites-le avec un livre il y a quelques années. Donc voilà, il m'a invité, je suis venu. Je n'interviens pas, mais j'écoute.
Ah, on a une prise de parole, on t'écoute.
Je joue avec mes potes dans le quartier.
Tu joues avec ses potes dans le quartier, tout à fait. Et ben, on a déjà quelques points communs.
Bon, que représente pour toi ce thème, en fait, Monique, rencontre entre l'urbain et le rural?
Ah ben, moi, j'ai toujours été pour que les gens se mêlent de... Donc je trouve qu'effectivement il y a trop de distance entre souvent les personnes de la campagne qui sont parfois méprisées par les citadins, mais même dans une ville même, d'un quartier à l'autre, on voit qu'il y a des différences, des distensions, des injustices, donc pas toujours d'égalité. Mais je trouve qu'il faut qu'il y ait les deux et que les gens se rencontrent.
À chaque fois vers vous, puis un témoignage d'adulte. Et puis on revient à vous à chaque fois.
Mais
on va rester sur le thème de l'enfance, une enfance dans le rural. Will, qui va nous raconter d'où il vient, il va nous raconter comment il a grandi dans le quartier, dans son village.
Donc moi, mon enfance là-bas, c'était faire du skate avec les copains, beaucoup. C'était jouer aux jeux vidéo, bien sûr. On allait chez les uns les autres pour jouer aux jeux vidéo. Et après, on faisait un peu... Sinon, on traînait quoi dehors. On traînait, on allait à la rivière, on allait au village ou au village d'à côté. Et puis, on faisait un peu des bêtises des fois. Enfin, voilà, on était des enfants, quoi.
Comme ceux derrière, là, qui tapent.
Voilà, c'est ça. Bon, on était pareil. Un peu turbulent. On parle beaucoup, on voit beaucoup dans les quartiers populaires les jeunes qui font du scooter, qui font de la moto cross, qui font des lèvres en moto, bref. Nous, on faisait pareil. On traînait dans ce qu'on appelait le quartier, mais en fait, c'était le village. Puis on rigolait entre potes et on n'avait pas grand-chose de plus à faire. Et de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a raconté des jeunesses dans les quartiers populaires, c'est un peu la même chose. Au final, c'est juste pas le même lieu. Avec des copains, des copines, on veut monter notre média associatif. Nous, on vient tous d'horizons différents. Il y en a, effectivement, ils sont plus citadins. Il y en a, des quartiers populaires, tout ça. D'autres qui sont beaucoup plus ruraux, avec des niveaux de vie qu'on a connus différents aussi, en termes financiers, on va dire. Et donc, on veut se nourrir les uns les autres pour monter ça. Et voilà, essayer de montrer, de raconter une réalité qu'il y a dans tous ces milieux-là, qu'on n'entend pas forcément dans les autres médias, et faire parler en fait tout ce petit monde-là qui raconte vraiment ce qu'eux vivent sans clichés, et voilà, parler de nous, pour nous. Donc quand je dis pour nous, c'est pour les gens comme nous, mais les faire parler les ruralités par les ruralités, pour les ruralités, et faire parler les quartiers populaires pour les quartiers populaires et pour les autres aussi, pour qu'on apprenne à se connaître un petit peu mieux, qu'il y ait moins de clichés et moins de peur, de haine, de discrimination entre nous qui existe. Moi je considère que quand on se connaît pas, généralement, on a tendance à avoir peur de l'autre un peu plus, et je trouve ça très dommage parce que on a beaucoup de points en commun et tout le monde peut s'entendre très bien. Enfin, je pense que j'en suis aussi la preuve. Voilà.
Merci beaucoup, Will. On l'applaudit.
Il n'y a pas de quoi. Ouais.
C'est quoi la ville pour toi ?
T'as plein de choses comme quoi dans la ville, tu peux avoir, par exemple, dans un village. T'as pas de plage ou quoi, tu peux en avoir. Mais dans une ville, tu peux trouver plein de trucs à faire, quoi. Du coup, c'est bien parfois de vivre dans une grande ville, mais être en campagne aussi, c'est bien.
D'accord. Alors, il y a plein de choses
non,
à y faire.
C'est juste que la ville, il y a des trams et tout, il y a plus de bus. Il y a des bus qu'en campagne, il y a plus d'arbres.
Alors, je m'appelle Nourdine Barra, j'ai 48 ans, j'habite le quartier de la Paillade. J'organise des agoras sur l'espace public depuis 15 ans maintenant et je suis auteur. Il y a un gap qui grandit entre une vie dans la ville et dans les cités et une autre dans le rural. Renseigner sur la vie de l'autre seulement par médias interposés, par politiques interposées qui souvent viennent à se situer entre nos vies en prisme déformant. Or, ça peut avoir des effets assez périlleux, comme le vote des uns qui exprime le rejet des autres. La plupart des rencontres que j'organise se font sous le contrôle des enfants et je trouve que ça produit chez chacun les paroles les plus sages, les plus responsables, et parfois même les plus profondes, quoi. Les accueillir à la paillade aussi revêt une importance assez capitale. J'ai confiance en mon quartier et en son sens de l'accueil, de l'hospitalité. Il s'agit de façon très urgente à nouveau de tisser de la relation, des liens, d'élaborer nos propres réseaux de solidarité, nos filets de sécurité. Et je crois qu'elles ne se construisent, ces précautions qui nous feront aborder un monde qui a l'air de se durcir, que dans une rencontre directe et en faisant renaître entre tous une solidarité et une fraternité surtout un petit peu perdue et mise à mal.
Voilà, vous étiez à la paillade avec Nourdine Barra et ses invités et je lui emprunte ces mots. Puisqu'il disait, cette agora poussée par l'urgence à se rencontrer, à tisser des liens, à se rapprocher quand l'instrumentalisation guette a permis à des pailladins de s'adresser naturellement, très exclusivement à ceux qui avaient pris un bus au petit matin depuis leur village pour rejoindre la paillade, et de ne se préoccuper que d'elle, a révélé une autre valeur commune aux rurales et aux cités qu'il faut tenir et soulever ensemble comme un trophée. On s'honore d'abord par l'accueil qu'on produit. Il parle de rencontres en circuit court, Nourdine. Qu'est-ce que ça vous inspire, Ashraf Manar?
Bah, on parle souvent des quartiers populaires et des milieux ruraux comme un problème à résoudre. Et là, on vient d'entendre une solution qui est la plus basique et qui est pourtant la plus efficace. C'est de comprendre les points communs, de se rencontrer et donc de sortir des dynamiques d'exclusion. Et on le voit, il tire un point commun qui est très fort en quartier populaire et en milieu rural. C'est l'hospitalité. C'est le sens
et l'ennui.
De...
on entendait Will.
Aussi, ça arrive. Mais typiquement, l'exemple, par exemple, de la motocross ou du T-Max, du scooter, c'est des choses quand on est un jeune dans un quartier populaire ou en milieu rural qui nous parle. Donc je trouve que c'est des points communs à aller tirer qui sont vraiment intéressants. Et pour moi, ça fait beaucoup partie de la solution parce que lorsqu'on permet à ces groupes sociaux de se parler, ce qui peut venir, c'est de comprendre l'arnaque commune dans laquelle ces deux groupes sociaux sont plongés.
Vous le faites ça avec des familles?
On commence à le faire, donc c'est pour ça que c'est un très bon exemple à la paillade duquel on va s'inspirer. Mais l'esprit, c'est de dire il y a des personnes dans ces deux groupes sociaux qui ont intérêt à comprendre qu'ils se font arnaquer en commun. Je prends souvent cet exemple parce que pour moi, c'est le levier le plus fort. À chaque fois que les pouvoirs publics, les pouvoirs libéraux, alliés souvent avec l'extrême droite, poussent des politiques publiques antisociales, typiquement une réforme des retraites, on épuise le corps social, justement, les syndicats, etc. Et puis l'année suivante, on essaie de maquiller ça avec des politiques, justement, qui visent plutôt les quartiers populaires, des lois immigration, etc. Tous les deux ans, c'est des cycles de deux ans qui se reproduisent très, très souvent. Par exemple, 95-96, c'est exactement ça. Réforme des retraites en 95. Et en 96, loi immigration. 2008...
Après, il y a eu quasi une loi immigration par an, hein, depuis...
Totalement, ça c'est un continuum, ça bouge pas. Mais souvent, c'est couplé à des lois antisociales. 2008, austérité et crise économique. 2009, grand débat sur l'identité nationale. Et Emmanuel Macron, lorsqu'on sort de la crise Covid,
ce que vous dites, c'est qu'il y a une forme de calendrier qui permet de continuer à fracturer... les classes populaires et de casser la question sociale, c'est ce que j'entends.
Exactement, et ça permet aussi d'épuiser justement à la fois les habitants de quartiers populaires et de milieux ruraux, ils ne vont pas s'engager en même temps, donc pas sur le même calendrier, et donc on gagne moins et on arnaque en commun.
Qu'est-ce que ça vous inspire cette idée d'arnaque collective, Max Rousseau? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une capacité à conscientiser justement cette trajectoire commune? Est-ce que c'est juste le récit politique et médiatique qu'on en fait? Ou est-ce que ça va plus loin? Est-ce que véritablement la question raciale, elle divise tellement qu'il n'y a pas de possibilité de faire commun?
Non, je pense que la question raciale, c'est une construction politique, clairement. Je pense également que ces divisions, elles sont purement factices, hein, c'est également des constructions. Moi, je pense qu'il faut plutôt envisager ces espaces comme, comme en relation permanente. De toute façon, les quartiers populaires, c'était, après tout, c'était des réceptacles des populations rurales dès la fin du 19e siècle avec l'exode rural. Ensuite, à partir des années 70-80, un certain nombre de ces populations, des faubourgs et des quartiers populaires, peu importe, sont ensuite partis pour des lotissements dans le périurbain, pour de nouvelles formes de ruralité. Mais au final,
ou alors certains disent une nouvelle forme de grand ensemble, mais cette fois-ci plutôt à l'horizontale.
Tout à fait. Mm-hmm. Mais ce que je veux dire par là, et leurs enfants quittent à leur tour souvent ces lotissements parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour retourner dans les villes, etc. Donc il vaut mieux avoir peut-être une vision un peu plus dynamique que ces visions essentialisatrices des territoires qui sont assez.
Mais justement, dans cette revue Mouvement, dans l'éditorial Max Rousseau que vous copilotez avec Renaud Epstein, Thomas Kirschbaum, Vincent Béal, vous dites qu'il faut penser ces effets de lieu. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ben, ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, en fait, on pense effectivement beaucoup en termes de groupes sociaux, mais il est clair également que la manière dont, enfin, que l'endroit dans lequel on vit influence l'agence des gens, c'est-à-dire leur capacité à s'organiser, leur capacité à envisager le monde autour d'eux, et que quand on est dans le 16e arrondissement de Paris, c'est pas la même chose que quand on est à La Courneuve ou quand on est à Verdun, dans une ville en déclin.
Donc on pourrait par exemple revoir complètement le cadrage politique en disant on ne s'adresse pas aux minorités, aux femmes, mais se dire on va s'adresser en fait aux territoires délaissés, par exemple.
Tout à fait, c'est ce qu'on espère en tout cas. Nous en fait, Renaud et Thomas, c'est plutôt des spécialistes des banlieues, des quartiers populaires.
Renaud Epstein et Thomas Kirschbaum, ouais.
Et Vincent Béal et moi, on est plutôt... on a beaucoup travaillé sur les villes en déclin. On s'est rendu compte qu'en fait, on contribuait un peu à cette division nous-mêmes, à notre petit niveau. Donc l'idée, c'était de se mettre ensemble, parce qu'on avait complètement conscience, surtout au moment des émeutes il y a 2 ans, qu'en fait, ces territoires partageaient en fait les mêmes problématiques, hein, de pénurie d'emploi, de recul des services publics.
Parce qu'en plus, pardon de tirer ce film, mais les révoltes post-Naël en 2023 ont éclaté aussi dans des villes, pour le coup, moyennes, voire petites villes, ce qui renvoyait aussi, dans une certaine mesure, au mouvement des Gilets jaunes. Donc, on est dans des logiques de révolte, finalement, de mouvement politique à politique, si je puis dire, qui pourraient converger, c'est ça ?
Qui pourrait peut-être. Il y a eu des tentatives d'ailleurs de la part des Gilets jaunes, à Commercy, de faire se rencontrer ces différents groupes, qui étaient d'ailleurs très intéressantes, où on voyait certaines différences, mais également certains points de convergence.
Ashraf.
Une réflexion que j'ai notamment sur le terme territoire délaissé, je trouve déjà que toute tentative d'essayer de sortir du débat horizontal de quartier populaire à milieu rural, de trouver une dénomination commune pour aller adresser la lutte verticale, j'encourage ce type de réflexion. Je me pose quand même la question, et je trouve que c'est intéressant, de rentrer par la question du territoire. Je trouve que, d'une certaine manière, ça peut naturaliser les inégalités sociales, et donc rentrer un peu dans la même configuration que Tours et Bourg, par exemple. Et de la même façon, sur la partie délaissée, je trouve qu'il faudrait préciser de quel point de vue on parle lorsqu'on parle de territoire délaissé.
Est-ce par qu'on les veut politiques dire... publiques, peut-être déjà.
Typiquement, je pense que ces territoires-là sont délaissés d'un point de vue état social, mais ils ne sont pas du tout délaissés par l'État. Si on prend par exemple les quartiers populaires, moi maintenant j'habite à Saint-Denis, lorsque je suis à la gare RER de Saint-Denis, je vois très bien que l'État ne délaisse pas ce territoire parce que surreprésentation de la police, surreprésentation des contrôleurs, et lorsque j'arrive, je prends mon RERD et puis je marche un peu et j'arrive à Grand Boulevard, je ne trouve pas la même présence de l'État typiquement. Donc, et de la même façon, je pense que ces territoires ne sont pas délaissés, y compris par leurs habitants. Lorsqu'il ne se passe pas grand-chose d'un point de vue état social, les habitants font du beau avec pas grand-chose. Donc en milieu rural, ça va être les jeunes qui vont organiser des comités des fêtes et qui vont structurer la vie sociale de leur territoire. Donc ils ne le délaissent pas, au contraire, ils remplissent le vide parce que c'est une obligation. Et en quartier populaire, ça marche exactement de la même façon, avec tout le tissu associatif qui est juste incroyable, qui ne devrait pas exister, entre guillemets, parce que c'est le rôle de l'État social de faire ça.
On est dans des formes d'auto-organisation, est-ce que vous voulez dire ?
Exactement. Donc délaisser, ça dépend de quel point de vue.
Oui, mais c'est intéressant, Max Rousseau, justement, là-dessus. En fait, c'est très difficile de catégoriser, et dans la revue, il y a tout un entretien, notamment, où vous disséquez l'idée d'Interland. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça pourrait... par exemple, rentrer dans ce cadre ?
Ouais, l'Interland, c'est l'arrière-pays. Mais je voudrais juste peut-être répondre tout de suite à ce que disait Achraf. Donc, je suis assez d'accord. Et en fait, pour tout vous dire, ce terme de territoire délaissé, on a traduit de l'anglais, de Left Behind Places, qui est un concept qui a été créé en 2016 au moment du Brexit et concomitamment de la première élection de Trump. Où, en fait, des géographes se sont rendus compte que ces deux manifestations de la droite populiste, disons, émanaient notamment des territoires en situation de fragilité depuis la crise de 2009. Donc, des territoires post-industriels, des banlieues en difficulté, des territoires ruraux,
etc. Parce qu'on s'est dit quoi ? Le terme de territoire en marge, de territoire périphérique, ça n'allait plus ? Il fallait trouver de nouvelles catégories ?
Ben, ça voulait dire qu'en fait, il y a des territoires qui sont en arrière pour deux raisons. D'une part, par le jeu du capitalisme, c'est-à-dire en fait la désindustrialisation, le fait que l'entrée dans une société de services a induit plutôt un renforcement des dynamiques métropolitaines. Par exemple, la finance, les assurances se localisent pas à Verdun ou à Montluçon, elles vont plutôt aller pas loin d'ici, là, à la Défense. Et parallèlement, par un recul de l'État qui, dans les années 40 à 70, ça a été dit au début, avait une politique d'aménagement très volontariste qui visait à juguler les inégalités territoriales, pas par philanthropie, mais simplement parce que le système fordiste, qui prenait place dans un cadre national, nécessitait que tout le monde contribue à l'effort de la croissance. Donc il fallait qu'il y ait des usines un peu partout, en fait. C'était ça le deal. Tout ça s'est effondré à partir des années 80, et à la fois le secteur privé, les investissements privés et publics ont commencé à reculer. Donc voilà pourquoi on parle de territoire délaissé. Là où je suis d'accord avec Achraf, c'est qu'effectivement, ça peut donner l'impression que les habitants sont apathiques face à cette situation. C'est pas du tout la volonté du concept, hein, au contraire. Mais je comprends la critique, et t'es pas le premier à la faire, pour être franc. Mmh. Voilà. Sur le terme d'Interland, c'est un petit peu différent. C'est l'arrière-pays. En fait, l'idée, c'est plutôt qu'on a des territoires servants et des territoires dominants. Par exemple, en gros, ça serait nous sommes les 1%. En gros, il y aurait des territoires qui seraient les 1%, des territoires de riches consommateurs qui peuvent acheter de la nourriture bio, j'en sais rien, enfin, accéder à des services de pointe. Et puis, des territoires, un arrière-pays. L'arrière-pays, ça serait là où vous avez toutes les installations énergétiques,
ouais, les champs, tout ce qui va
nourrir ce métabolisme plutôt des quartiers très, très, très aisés, ceux de l'Ouest parisien typiquement.
Ouais, et là donc là aussi on voit bien les limites. Raconter une histoire commune à Achraf, ça veut dire quoi typiquement? Il faudrait passer par quel levier au vu des échéances électorales qui se présentent, que ce soit en 2026, en 2027? Vous parlez par exemple d'écologie de la dignité. Vous parliez tout à l'heure aussi de traiter la question du racisme. On peut pas ne pas la traiter, j'imagine, quand il s'agit de faire converger ces espaces et ces populations. Comment vous voyez les choses?
Là-dessus, je trouve que le fait de trouver du commun entre ces deux groupes sociaux, c'est fondamental pour raconter quelque chose et donc notamment pour faire se comprendre des groupes sociaux qui ne se parlent pas. Donc typiquement, vous mentionniez tout à l'heure l'assassinat de Naël et les Gilets jaunes. Mmh. Le point commun, je trouve, de ces deux mouvements de révolte, c'est qu'ils n'ont pas été écoutés à la fin. Post-assassinat de Naël, je pense que c'est la première fois qu'il n'y a aucun débouché politique et absolument aucune victoire de politique publique. Je pense que c'est la première fois que ça arrive, typiquement.
Alors que les Gilets jaunes ont eu 17 milliards d'euros débloqués par le président de la République.
Totalement. Mais si on écoute typiquement les Gilets jaunes, ça va être complètement à la marge de ce qu'ils auraient voulu gagner à ce moment-là. Donc je trouve que le continuum entre ces révoltes, c'est qu'elles ne sont pas écoutées. Donc je trouve qu'il y a un fil à tirer sur le manque de pouvoir d'énonciation dans ces espaces. Et donc moi, je veux m'appuyer, c'est pour ça, c'est une proposition que je mets au débat aussi, sur un champ sociologique qui s'appelle la subalternité. Donc Gramsci, qui conceptualise typiquement les subalternes. Et donc là-dessus, pour le faire rapidement, ce qu'il raconte, c'est que le point commun entre les subalternes, donc entre l'ouvrier turinois et le paysan sarde, c'est que ce sont des groupes très hétérogènes, qu'ils ont beaucoup de points en commun, mais que leur problème principal, c'est de perdre sur l'hégémonie culturelle, et donc de n'avoir aucun espace de pouvoir d'énonciation. Donc, je pense que par la culture, par le fait de gagner de la place dans l'espace démocratique, on peut faire quelque chose.
Alors justement, parlons culture. Des villages aux banlieues, les espaces relégués partagent un certain déficit de représentation sur les écrans, entre autres dans la littérature ou la musique. Antoine Dulster, dans votre chronique cette semaine, vous vous penchez sur les raisons de cette relative absence.
Oui Nora, et pour comprendre ces enjeux, il faut poser une question simple. Qui parle au nom de qui dans ces œuvres de fiction autour de ces espaces du manque, de la précarité et de l'éloignement? Un premier cas de figure apparaît dans un grand film de Claude Sautet, Vincent François Paul et les autres. François, personnage de médecin, interprété par Michel Piccoli, s'agace des commentaires de ses amis sur la relégation spatiale des plus précaires.
Alors, Jacques, tu disais la banlieue ?
Je dis pas la banlieue, mais un peu plus loin. Quand tu traverses, tu ne connais plus rien.
Ni personne.
En tout cas, c'est moins les que ses tours.
Ça dépend lesquels ?
Ah, regarde, c'est vrai, il y a des tours qui sont belles.
En tout cas, les gens qui habitaient là, ils se sont expulsés, eux. Sans histoire.
Dans les horloges ?
Oui, dans des HLM, avec des loyers qu'ils peuvent pas payer.
Donc à s'installer plus loin ?
Oui, dans la Creuse, c'est pas mal, il paraît. Ou dans l'Ardèche.
Tu rigoles, mais les types qui sont déjà à 60 ou 100 km de leur travail, c'est pas une rigolade pour eux.
C'est l'évolution urbaine, c'est inévitable. Faut savoir s'adapter.
S'adapter, t'es très marrant, toi. Faut avoir les moyens de s'adapter.
Ce qui est frappant dans ce film, c'est que les participants à cette discussion, qu'ils soient d'accord ou non avec le personnage de François, appartiennent tous à la bourgeoisie. La description des espaces relégués qui apparaît reste donc théorique et lointaine. C'est cohérent avec cette idée des plus précaires qui n'auraient qu'à s'installer plus loin. Plus loin, justement, et beaucoup plus près de nous dans le temps, il faut citer un film culte sorti en 1995, La haine de Mathieu Kassovitz. Cette fois-ci, les relégués, les exclus, en l'occurrence trois jeunes de cité, ont droit à la parole, y compris pour dire leur vérité à des journalistes qui viennent leur rendre visite depuis l'habitacle de leur voiture.
Bonjour messieurs, c'est pour la télé.
C'est quoi ça ?
Est-ce que vous avez participé aux émeutes cette nuit ? Est-ce que vous avez cassé quelque chose ?
Brûlé des voitures ? Madame, on s'en bat des voyous pour vous ou quoi ?
Ah non, j'ai jamais dit...
Ah ouais, alors on ressemble à quoi pour vous, madame ?
Ah mais rien, j'ai...
Pourquoi vous descendez pas de la voiture, là ? On n'est pas à toirer ici !
Non, écoutez, on a du boulot, on est en
Ah ouais, ouais, vous avez beaucoup de boulot comme quoi, par exemple, quoi ? Trouver un truc bien baveux, histoire de foutre la merde, hein ? Histoire de faire un scoop ?
Vas-y, arrête de filmer !
Mais pour qui t'es poil, venir t'es pété dans mon quartier ! Tu veux t'arracher, vas-y, bouge là ! Qu'est-ce que tu filmes, toi, fils de pute ? Qu'est-ce que tu filmes, fils de pute ? Tu viens nous embrouiller, tu sais de pute ! Pas à toirer, là !
On n'est pas à Thoiry. Cette réplique résonne comme un cri de colère lancé aux médias, aux élites et aux habitants des centres-villes. Un cri lancé au beau milieu d'une époque qui voit un basculement dans les représentations des espaces en crise. Dans ces années 1990, on tend des caméras et des micros vers les habitants de ces banlieues et de ces campagnes qui se racontent par la fiction mais aussi par le documentaire, sans oublier la musique, y compris dans des registres franchement inattendus, comme ici en 2007 avec la chanson Marly Gaumont du rappeur Camini.
Dédicacé à tous ceux qui viennent des petits patelins. Ces petits patelins paumés, pour qui personne n'a jamais rappé, même pas un flow. Ces petits patelins paumés que même la France, elle sait pas qui sont là chez elle. Les petits patelins paumés que personne ne connaît, même pas Jean-Pierre Pernaut.
Camini en 2007 avec un message simple, au-delà des différences, banlieue et campagne, même combat. Le message est encore plus fort quand il vient des premiers concernés. Les choses ont bien changé depuis l'époque des films de Claude Sauté.
Merci beaucoup Antoine. Et si on tire le fil justement de cette guerre culturelle qu'il faut mener, Max Rousseau, est-ce qu'elle n'est pas déjà perdue ?
Non, mais effectivement, c'est intéressant ce que disait Ashraf sur Gramsci et les groupes sociaux. On pourrait très bien aller un peu plus loin, j'y pensais pendant les extraits. On peut spatialiser Gramsci, et effectivement, l'hégémonie, en fait, si on la spatialise, il y a des espaces qui produisent des discours, et il y en a qui les subissent.
Parfait.
Et c'est là peut-être que le concept d'Interland, d'arrière-pays dont on était en train de parler, est intéressant, parce qu'il permet justement de relier des territoires dont la fonction est de servir. Et on peut là aussi bien parler de l'Ardèche et de la Creuse, qui étaient, c'est marrant parce que c'était dans le premier extrait, c'est les premiers territoires en fait qu'on perd des habitants. L'Ardèche et la Creuse, c'était des départements qui étaient bien plus peuplés en 1850 qu'aujourd'hui encore.
Mais peut-être qu'on pourrait même aller plus loin et se dire que finalement, il n'existe même plus de campagne.
Alors ça, c'est la théorie de l'urbanisation planétaire, effectivement. Donc c'est encore un élément encore plus très intéressant, qui effectivement, vous pouvez très bien considérer qu'il n'y a plus de campagne, qu'il n'y a plus de... Parce que la campagne, c'est une production qui est destinée à des marchés urbains. Vous pouvez considérer que le désert lui-même est urbanisé, qu'on y met des panneaux solaires, que l'océan est rempli de portes-containers, sillonné par des portes-containers, et en dessous, on a des câbles sous-marins Internet, qu'en fait, tout et absolument que l'urbain a dépassé les limites de la ville pour prendre possession de l'ensemble du territoire.
Et c'est là qu'en fait la notion de subalterne est presque, enfin voilà, on revient à des logiques de domination pure. Il y a les dominés, ceux qui sont au service d'un système et ceux qui en bénéficient, enfin voilà. Basique cours de première année sur le marxisme, pardon.
Vous avez des territoires productifs qui vont faire du blé, etc. et des territoires qui vont pourvoir, par exemple, les soignants pendant le Covid, qui vont être la Seine-Saint-Denis. Et ce type de notion permet de, justement de créer un continuum entre ces territoires.
Mais Achraf Manar, cette guerre culturelle, il faut aussi la mener au-delà des médias, au-delà... Enfin, comment on fait ? Parce que évidemment, c'est pas Camini, malgré le tube qui a été Marly Gaumont, qui va permettre en fait de créer des convergences de récits entre ces espaces.
Totalement. Là où c'est intéressant et là où pour moi notre libération passe par la culture, c'est que les groupes sociaux dominés, donc les subalternes, ne peuvent pas parler, par exemple, dans l'espace associatif. La majorité des assos sont dirigés par des personnes qui n'en viennent pas. Ils ne peuvent pas non plus s'exprimer dans le champ politique. On voit bien que ce soit les partis de gauche typiquement, les partis de droite et encore plus d'extrême droite, les habitants, les subalternes, ne sont pas au poste de responsabilité, ne sont pas parmi les porte-paroles. Ils sont toujours les cibles, ils sont toujours les marchés d'électorat, mais ce ne sont pas eux qui façonnent les discours de ces espaces-là. C'est encore plus vrai dans le monde de l'entreprise. Donc il y a un espace dans lequel...
Il y a quand même eu des progrès. Enfin, vous parlez d'une totale invisibilisation. Ce soir, vous êtes là au micro de France Culture à 27 ans. Je ne suis pas certaine que tout ceci aurait été possible en 2005, quand les réseaux sociaux n'existaient pas et quand les habitants, notamment de quartiers populaires, ont dû subir des discours après la mort de Ziad Ebouna. C'est-à-dire que ces espaces de contre-récit, ils ont quand même augmenté.
Totalement. Ça avance. C'est très lent au vu de ce qu'on a besoin de faire, mais je suis d'accord avec vous, ça avance. Et donc, je pense que l'espace dans lequel, à la fois, on peut construire des ponts, se comprendre et s'exprimer pleinement, c'est l'espace culturel. Je vous donne un exemple très concret. Destin lié, lorsqu'on ouvre nos formations, on commence par un théâtre d'improvisation où on joue un jeu de rapport de force entre des Athéniens, donc des tenants de l'Empire à l'époque, 5e siècle avant Jésus-Christ, et les Méliens, une petite île colonisée. Et on joue ce rapport-là. Et là, on sort complètement des dynamiques de territoire. Il y a des personnes qui jouent justement les habitants colonisés sur qui s'exerce le pouvoir, et il y a des personnes qui exercent le pouvoir. Et c'est l'outil culturel que j'ai vu le plus puissant pour faire se comprendre des gens qui pensaient n'avoir rien en commun. Et on peut effectivement tirer le fil sur la question de la musique en quartier populaire et en milieu rural. J'ai entendu du Jul, par exemple, j'ai entendu du Dino, j'ai entendu plein de choses de cet ordre-là. Et dans le cinéma, ça marche de la même façon. Typiquement, on a un peu emprunté cette voie en montant un partenariat avec La Pampa, le film qui est sorti d'Antoine Chevrolier.
Et c'est qui a été co-scénarisé par Faizagen.
Faizagen, complètement.
Qui parle, elle, justement, d'une rencontre, parce que La Pampa d'Antoine Chevrolier répond à Sa Pampa, à elle, aux courtières à Pantin.
Exactement. Mm-hmm. Et c'est la voix.
Mais justement, Achraf, on voulait vous faire écouter quelque chose, parce que là aussi, vous convoquez les rappeurs, etc. Donc, il semblerait que vous ayez comme ça emprunté quelques mots à certains, et on voulait justement vous les faire écouter. On y va.
Dans mes songes, je parle de paix, mais je suis prêt à la guerre, le sais-tu. Avec Relil, on cherche des thunes, on a deux, trois tuyaux pour faire des tubes. Faut déjà en mettre pour closer ce décuple. Y'a aucun doute et mon rêve c'est que je me salirai pour qu'il reste sécure. Fais justifier mesure draconienne, j'fais ma barque, j'attends pas que le bateau vienne. Cœur cassé comme les lattes, tu soumillais.
Il la connaît par cœur. On aurait dû prendre une vidéo. C'est Tiff et le titre c'est Shadowboxing. Et il y a une phrase là-dedans qui vous marque, c'est laquelle ?
Je construis ma barque, j'attends pas que le bateau vienne. C'est l'autonomisation.
Pourquoi c'est si important, Achraf, de s'autonomiser ? C'est par rapport à tous les espaces de domination dont vous parliez tout à l'heure ?
Totalement. Je pense qu'on a perdu beaucoup de temps à essayer d'infiltrer des espaces dominants et à essayer de construire notre petite voie là-dedans. Je pense qu'on est au moment, et vous l'avez dit, on a des espaces, on a des moyens, on peut construire nos propres espaces, se raconter par nous, pour nous-mêmes, avec nos propres infrastructures.
Max Rousseau, ça veut dire que finalement, il y a peut-être encore des interstices de prise de pouvoir possible dans cette guerre culturelle. Vous êtes optimiste ou est-ce qu'on est condamné à subir ces images et ces slogans des tours et des bourgs ?
Non, il y a toujours des... Achraf a raison, il y a toujours des interstices, c'est cyclique. C'est sûr qu'après, le discours médiatique dominant, et depuis assez longtemps, il est plutôt un peu urbaphobe et assez hostile aux banlieues, hein, mais les choses sont en train de changer, il faut rester optimiste, il n'y a aucun souci.
Ouais, et surtout, il faut aimer les gens, c'est ça que vous dites, Achraf ?
C'est la base.
Merci beaucoup, merci Max Rousseau, merci Achraf Manar. Max Rousseau, je rappelle, novembre 2004, revue Mouvement politique des territoires délaissés à lire, absolument. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis, merci à Antoine Dulster et à Léa Capuano qui ont préparé cette émission, à l'incroyable Camille Mati qui l'a réalisée, à la technique c'était Olivier Arnay. Vous pouvez écouter, réécouter cette émission podcastée à l'envi sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. On se donne rendez-vous vendredi prochain à 20h et d'ici là, très bon week-end évidemment sur l'antenne de France Culture.